Mes chers frères et sœurs, j'ai reçu la même invitation que vous. Le titre, c'est « La place que Dieu assigne respectivement à l'homme et à la femme au sein du rassemblement ». Et j'ai préparé donc cet exposé de ce soir, et j'ai mis le titre « Le service et la valeur des femmes dans la Bible ». Et après avoir fini ces feuilles, j'ai retrouvé l'invitation. Donc, vous voyez qu'il y a un petit problème entre ces deux titres, mais ça prouve que j'ai compris sur quel point la question ou les questions se focalisent. Alors, soyons franchement. Eh bien, tout de même, j'aimerais parler de l'homme et de la femme, mais bien sûr, dans une heure, on peut seulement parler de quelques aspects. Mais j'aimerais peut-être souligner des aspects qui sont peut-être surprenants, des aspects difficiles, etc. Tout d'abord, j'ai rassemblé quelques passages dans l'Ancien Testament en rapport avec notre sujet. Ensuite, un tas de passages dans le Nouveau Testament. Et nous allons trouver donc plusieurs aspects qu'il faut considérer dans cette question avant d'avancer à une conclusion. Ensuite, j'aimerais parler sur les derniers versets de 1 Corinthiens 14, parce que ce sont là des versets qui sont considérés en général comme étant très difficiles à interpréter. J'aimerais montrer des différentes approches qu'on trouve parmi les exégètes, ceux qui écrivent des commentaires. Ensuite, j'aimerais faire une analyse de détail de ces versets, montrer quelques points particulièrement considérés. Ensuite, je parle aussi du passage difficile en 1 Timothée 2, 11 à 12. Et donc, j'aimerais montrer des différents points de vue, mais je ne cacherai pas que j'ai une propre conviction. Et donc, j'exprimerai ma conviction, mais sans que ceux qui auraient une autre conviction se sentent condamnés par moi. Alors ça, c'est important. Il me semble que cette soirée est là pour rechercher ensemble la volonté de Dieu et la pensée de Dieu, le chemin de Dieu dans ces questions. Et je crois que nous tous, nous avons le désir de notre cœur de vouloir aimer, suivre le Seigneur et de lui plaire. Même qu'il y ait des différents points de vue. Alors, nous commençons avec quelques passages dans l'Ancien Testament. D'abord, nous trouvons en Exode 15, verset 20, Marie, la sœur de Moïse, la prophétesse qui guida le chant des femmes. Après le passage par la mer Rouge, et on voit comme ces femmes chantent publiquement. D'abord, Exode 15, verset 1er. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et parlèrent disant, « Je chanterai à l'Éternel », etc. Ensuite, le verset 20. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en chœur. Et Marie leur répondait, « Chantez à l'Éternel ». Donc, il s'agit ici d'une antiphonie, c'est-à-dire les hommes ont chanté comme chœur, les femmes ont chanté comme chœur et ils ont répondu les deux chœurs. Donc, c'était Marie qui guidait le chant des femmes. Ensuite, nous trouvons un passage intéressant au nombre 27. Pendant le passage par le désert, une famille, c'est-à-dire cinq sœurs qui n'avaient pas de frères, ils ont perdu leur père et ils ont eu la grande question, est-ce que nous allons aussi recevoir un héritage dans le pays promis. Et voilà, c'était une question à laquelle on n'avait jamais pensé avant. Et ces femmes apportent cette question à Moïse. 27.1. Et les filles de Tselophkhat, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent. Et ce sont ici les noms de ces filles, Mahla, Noah et Ogla, et Milka et Tirza. Et elles se tinrent devant Moïse, et devant Éléazar le sacrificateur, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, disant, « Notre père est mort dans le désert, et il n'était pas dans l'assemblée de ceux qui s'ameutèrent contre l'Éternel, dans l'assemblée de Corée. Mais il est mort dans son péché, et il n'a pas eu de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille parce qu'il n'a pas de fils ? Donne-nous une possession au milieu des frères de notre père. » Et Moïse apporta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Les filles de Tselophkhat ont bien parlé. » Donc il faut s'imaginer cette scène. Cinq femmes se posent devant Moïse, les princes et tout le peuple d'Israël, qui était composé de millions. Donc c'est une scène publique. Et ils disent, ils n'ont pas simplement une question, ils ont une demande. Ils disent, « Donne-nous !» Et Moïse ne sait pas à quoi répondre. Il va vers l'Éternel et l'Éternel dit, « Ils ont bien parlé, les filles de Tselophkhat. » Ensuite, un passage en Juges 4, nous trouvons Déborah, une femme qui était juge à l'époque. 4-5, et Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Elle habitait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, de la montagne d'Éphraïm. Et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc une femme qui fait le service de juge parmi le peuple d'Israël. Et tout le monde, quand ils avaient une question de droit, ils allaient vers Déborah, une femme qui est prophétesse et juge. Ensuite, il fallait aller à la guerre. Barak, un homme, voulait que Déborah commande l'armée d'Israël. Elle a refusé. Elle a dit, je viens avec toi, tu dois guider l'armée, mais moi je ne guiderai pas l'armée. Donc il avait des idées très précises, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Et l'image qu'elle avait de soi-même se trouve en chapitre 5, verset 7. Elle se désigne comme une mère en Israël. Donc elle ne se considérait pas comme un père en Israël, mais une mère en Israël. Ensuite, en 2 Chroniques 22, 14 et 2 Chroniques 34, 22, nous trouvons l'histoire de la prophétesse Hulda au temps de Jérémie. Et voilà, une délégation du roi alla chez elle, à la maison, pour savoir la volonté de Dieu. Il est exactement dit dans quel quartier elle a vécu. À Jérusalem, les hommes vont là-bas. Et la prophétesse, chez soi, à la maison, elle dit, « Ainsi dit l'Éternel. » Elle donne le message du Seigneur à des hommes, à la délégation d'hommes, mais avec ça, un message au roi d'Israël. Ensuite, un passage très stupéfiant, Psaume 68, verset 11. C'est un psaume très difficile, mais simplement le verset comme tel dit, « Le Seigneur donna la parole. Grande fut la foule des femmes qui répondirent la bonne nouvelle. » C'est écrit comme ça dans la Bible. Ensuite, en Proverbe 31, les versets 10 à 31, nous trouvons le louange sur la femme vertueuse. Et ce louange couronne le livre des Proverbes, ce livre de sagesse, avec un acrostiche. J'explique, il s'agit de 22 versets. En hébreu, on a dans l'alphabet 22 consonnes. Et chaque verset commence avec une lettre suivant l'ordre alphabétique. Donc, c'est un poème de toute beauté qui couronne le livre de sagesse et qui parle donc de la valeur et de la femme vertueuse. La femme selon Dieu. Ensuite, le premier verset, il faut souligner, de Proverbe 31, car là nous apprenons qui est derrière ce chapitre. Il est dit « Parole du roi Lémuel ». Sentence par lesquelles sa mère l'intruisit. Qui avait le copyright? C'était une femme. Simplement, le roi Lémuel a transmis ce chapitre, mais l'origine, c'est une femme qui a instruit, enseigné, n'est-ce pas? Et là, il s'agit d'une instruction vis-à-vis d'un fils adulte. Non, pas vis-à-vis des enfants de l'école du dimanche. Adulte parce que, ça en voit, elle parle des problèmes de la sexualité, de l'alcoolisme, donc, du mariage dans le détail. Donc ça montre la maturité de Lémuel lorsqu'elle a reçu ses instructions. Ensuite, dans le même chapitre, la femme vertueuse est décrit en Proverbe 31-26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont, littéralement dans l'hébreu, c'est enseignement aimable et sur sa langue. Ensuite, un passage intéressant, Zacharie 12, verset 10, il s'agit du retour du Messie. Le Messie qui autrefois a souffert revient comme Messie triomphant. Et nous lisons, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Alors, représentons la scène. Le Seigneur Jésus revient et c'est celui qui avait été percé. Et voilà, ils lamenteront sur lui toute la nation d'Israël. Verset 11, en ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddon. Et le pays se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leur femme à part, la famille de la maison de Nathan à part, et leur femme à part, la famille de la maison de Lévi à part, et leur femme à part, la famille des Shimites à part, et leur femme à part, toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part, et leur femme à part. Donc il y a une lamentation publique. Et on ne le fait pas individuellement, mais on le fait dans des grands groupes. Des groupes d'hommes, des groupes de femmes qui prient ensemble à haute voix, publiquement. Femmes et hommes, là, seront séparés. Donc, je mentionne ça simplement pour prendre conscience de passage. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Bien sûr, aussi, ce choix est très, très éclectique. Choisi volontairement, on aurait pu encore ajouter d'autres versets, mais j'ai fait attention de particulièrement prendre des passages surprenants. En général, en lisant le Nouveau Testament, on constate un contraste entre homme et femme, car dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune femme qui est mentionnée qui aurait rejeté radicalement le Seigneur. Il n'y a que des hommes qui sont décrits de cette façon. Aucune femme. C'est quelque chose qu'il faut déjà noter. En plus, en Luc 23, 28, lorsque le Seigneur alla à Golgotha, les filles de Jérusalem, donc des masses de femmes à Jérusalem à l'époque, pleurèrent sur le Seigneur. C'est à noter, ce fait. Et il n'y avait pas les hommes qui auraient pleuré, mais des femmes, des foules de femmes. Ensuite, même au moment le plus critique, c'était une femme, la femme de Pilate, qui metta en garde son mari lorsqu'il était en train de juger le Messie, le Seigneur Jésus. Une femme, au dernier moment, intervient. Matthieu 27, 19. Ensuite, un beau passage, Luc 2, une des personnes importantes de l'époque qui attendait le Messie, c'était la prophétesse Anne. Et elle rendait témoignage du Seigneur. Je lis juste ces versets. Luc 2, 36. Il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. Celle-ci survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Donc une femme qui rend des témoignages partout à ceux qui attendaient le salut par le Messie. Un autre point. Dans ce passage lu, nous trouvons la prière d'Anne en présence d'hommes. Car elle, comme nous avons lu, et il y avait Anne. Ensuite, verset 38. Celle-ci survenant en ce même moment. Donc il faut lire ce qui précède. Et nous trouvons Joseph et Marie qui apportent l'enfant Jésus, un peu plus âgé qu'un mois, au temple pour racheter le premier-né par quelques pièces d'argent. Et en même temps, il y avait Simon, le juste, qui a pris l'enfant dans le bras. Et voilà, Anne arrive et elle loue le Seigneur, donc elle prie, mais en présence de deux hommes et une femme, et un enfant. Ensuite, nous trouvons en Jean 4, le premier missionnaire en Samarie, et voilà, c'était une femme. La femme samaritaine. Et j'aimerais juste lire un verset en Jean 4. La femme donc laisse sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ? Et ils sortirent de la ville et il venait vers lui. Donc elle donne un message qui était tellement public que la foule de cette ville allait alors vers le Seigneur Jésus. Ensuite, nous trouvons des disciples du Seigneur dans les évangiles, et en particulier les 12 apôtres, Luc 8, ensemble avec les 12 apôtres, nous avons là le mention de plusieurs femmes disciples. Je lis Luc 8, verset 2. Et les douze étaient avec lui, et des femmes aussi, qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités. Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, et Jeanne, femme de Cusas, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, des hommes, les douze, et des femmes qui sont les disciples du Seigneur. Ensuite, passage intéressant, une intervention publique d'une femme parmi la foule lorsque le Seigneur avait prêché. Luc 11, 27. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme éleva sa voix du milieu de la foule et lui dit, « Bienheureux est le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as têtées. » Et il dit, « Mais plutôt bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et comme les foules s'amassaient, etc. Donc, le Seigneur était là, parmi la foule. Tout d'un coup, une femme intervient, bienheureux, et le Seigneur ne dit pas, et il dit, mais plutôt bienheureux sont ceux qui... Simplement à noter. Ensuite, nous le savons bien, c'était des femmes qui étaient les premiers témoins de la résurrection dans les évangiles. J'ai noté comme exemple Matthieu 28, 5 à 9 et Jean 20, verset 11, etc. Et cela est absolument... à noter parce que à l'époque, parmi les Romains, le témoignage d'une femme valait nul. Donc, n'est-ce pas, c'est surprenant que la parole accentue le fait, dans tous les quatre évangiles, que c'était des femmes qui étaient les premiers à rendre témoignage comme... Que le Seigneur est ressuscité. Ensuite, nous trouvons Marie la mère de Marc, qui avait l'assemblée de Jérusalem chez elle à la maison. Acte 12, verset 12. Donc, aussi un fait qui simplement est à noter. Lydie était la première des croyants de l'Europe, qui est mentionnée par nom dans la parole. Donc, c'est la gloire d'une femme d'avoir cette place parmi les croyants de l'Europe. Et cela nous touche particulièrement. Acte 16, 14. Ensuite, dans la lettre aux Philippiens, Évodie et Saint-Tiche sont mentionnés qui ont combattu pour l'évangile avec Paul. Chapitre 4, 2 à 3. Deux femmes qui ont combattu avec l'apôtre Paul. Parmi les premiers croyants à Athènes, en acte 17, 34, il n'y a que deux personnes qui sont mentionnées, mais notons une femme au long avec un homme, Damaris et Denis. Dans l'épître aux Romains, chapitre 16, verset 1er, nous trouvons Phoebé qui est mentionné comme une diaconesse de l'assemblée de Quinchré. Diaconesse, d'autres traductions serviteur, mais le terme dans l'original c'est bien une diaconesse. Peut-être on devrait expliquer ce que c'est exactement, mais d'abord, un fait à noter. Et dans cette même lettre aux Romains, Paul salue environ 8 femmes et 18 hommes. Je dis environ parce que pour quelques noms, il y a une difficulté si c'est un nom de femme ou d'homme. Il y a même parfois des problèmes parmi les manuscrits. C'est pour ça alors, environ 8 femmes et 18 hommes. Mais tout d'abord, la femme missionnaire, Priscille. Donc ça montre un peu la valeur de la femme dans l'Église primitive. Et tout particulièrement ici, aux yeux de l'apôtre Paul. Aquilas et Priscille expliquèrent plus exactement la voie de Dieu à Apollos. Acte 18, 26. Ce couple remarquable a entendu Apollos dans la synagogue, à la synagogue, comme il a enseigné, expliqué l'évangile de Jésus, mais ils ont vu que il y a quelques aspects qu'ils ne connaissaient pas encore du christianisme. Ils l'ont invité chez eux à la maison, et c'était ces deux ensemble qui expliquent la voie de Dieu à Apollos, donc à un homme mieux. Ce n'était pas simplement Aquilas, mais la femme et l'homme ensemble qui expliquent. Ensuite, en acte 21, 9 à 10, nous trouvons une famille fort intéressante. La famille de l'évangéliste Philippe était composée de 4 filles qui étaient tous des prophétesses. Ensuite, un passage en 1 Corinthiens 11, 5 nous montre la prophétie des femmes comme une chose bien normale. 11, verset 5. Et toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte déshonore sa tête, etc. Donc, cette phrase en présent montre donc une chose normale et régulière. Une femme qui prie et qui prophétise. Ensuite, un passage en Tite 2, verset 3. De même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc ici, nous avons des femmes âgées qui doivent instruire les jeunes femmes comme enseignantes de bonnes choses. Ça, c'est plus littéral du grec, enseignante. Donc, il y a ce terme d'enseignant, d'enseignante dans le texte. Alors, nous avons avec ça quelques passages qui montrent tout un ensemble d'activités et de vues des femmes dans la parole. Et maintenant, nous allons lire le passage difficile de 1 Corinthiens 14. Je l'ai donné ici, le texte de la nouvelle édition de Genève 79 et la version de JND. Alors, nous lisons une version seulement. Je lis la Bible de Genève, verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. » Car il est malséant à une femme de parler dans l'église.